peut-on penser sans mots ? Alors, une possibilité pour traiter ce sujet, à laquelle j'ai pensé un moment, ça aurait été de me taire pendant une petite demi-heure, par exemple, pour essayer de voir s'il était quand même possible, justement, de se retrouver sans les mots. J'ai plutôt adopté la deuxième idée qui consistait simplement à faire une conférence traditionnelle. Alors, peut-on penser sans mots ? Ceci est une table, la porte est fermée, il fait déjà nuit. Quand est-ce qu'on mange ? Ce sont là pour nous des cas purs d'expression. Il nous semble que ces expressions-là sont univoques, qu'elles ne prêtent pas à confusion. Et sans doute, le langage atteint-il tout à fait son objectif lorsqu'il réussit à nous livrer un état de choses, des idées, des rapports, sans jamais rien laisser en suspens. Mais s'exprimer ainsi, ce n'est alors rien de plus que de remplacer une perception ou une idée par un signal convenu, un signal conventionnel qui l'énoncerait. Alors, la langue dispose d'un certain nombre de signes fondamentaux qui sont liés arbitrairement à des significations. À partir de tout cela, on est capable de les faire varier pour composer à l'infini des significations nouvelles. Alors, du coup, notre idéal est sans doute une espèce de langage absolument parfait qui nous permettrait de nous livrer directement aux choses du monde. Avec une langue parfaite, une langue en adéquation totale avec le monde, il suffirait simplement de faire varier les signes pour se donner les choses telles qu'elles sont. Le problème, c'est que cette volonté de trouver une langue pure, une langue qui n'est pas dénaturée, reviendrait à faire du langage une sorte d'algorithme qui pourrait donner à chaque chose une signification parfaite, mais ce serait peut-être aussi justement sa limite. On recherche souvent une transmission qui soit nette et sans bavure, mais je crois qu'il ne serait pas forcément heureux que nous l'obtenions. Jean Pollan disait « Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne. » Il s'agirait donc de rencontrer la bonne expression qui qualifie très exactement un état d'esprit. Il faudrait rencontrer une phrase à travers les limbes du langage, celle qui traduit exactement un état mental, un peu à la manière dont on pourrait associer un nom à un ami. Il nous semble que lorsqu'on voit un ami, son nom lui convient parfaitement et que finalement, il ne pouvait pas s'appeler autrement. En donnant ce nom, on n'a fait que déchiffrer ce qui était cette couleur d'yeux, cet air, cette démarche. Et de la même façon, on voudrait peut-être un langage qui, par-delà les modes, revienne une espèce d'âge d'or où les mots se contentaient de traduire les choses telles qu'elles sont, sans être déformés par les usages sociaux notamment, qui sont les nôtres. Mais puis-je vraiment réduire un état psychique ou une pensée complexe, à une simple combinaison de mots ? Sans les mots, il me semble que ma pensée est impuissante, qu'elle ne parvient pas à se constituer correctement. Si quelqu'un me dit « je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à l'exprimer », en général, bon, je suis poli comme garçon, donc je lui souris, mais je pense intérieurement « non, il me ment, ou il se ment à lui-même. S'il savait exactement ce qu'il veut dire, il le dirait. Il serait capable de le dire. » Ce qu'il veut dire, on pourrait même le formuler autrement, est justement absolument réductible à ce qu'il est capable d'en dire. Et s'il ne peut pas mettre de mots sur sa pensée, c'est que sa pensée est encore trop imprécise et qu'il ne la maîtrise pas. Et pourtant, à l'inverse, j'éprouve parfois le sentiment que mon langage est incapable de rendre ce que je pense ou ce que je ressens. Alors, quand je dis par exemple à ma femme que je l'aime, je le dis comme n'importe qui. Et pourtant, il y a bien un sentiment unique qui est le mien. Mais bon, « je t'aime » traduit infidèlement un état mental beaucoup plus profond, j'espère. Vous avez sûrement aussi rencontré les limites du langage au moment où vous vouliez vous excuser. S'excuser, c'est chercher les mots, et généralement les mots rendent beaucoup moins bien que ce que vous aviez en tête. On a dans ces cas-là la sensation, au moins apparemment une pensée, une intuition, mais les mots ne font qu'affaiblir, en général, ce que je ressens profondément. Un sentiment de trahison. Alors, est-ce que c'est un sentiment illusoire ? C'est une autre question. Mon amour pour ma femme est-il réductible à ce que je suis capable d'en dire, et donc d'en penser ? Alors, pour répondre à cette question, et pour rassurer ma femme, on va envisager trois hypothèses. La première consistera à refuser absolument la distinction entre pensée et langage. Ce serait une forme d'hypocrisie que de considérer qu'il y a une pensée au-delà des mots. Ce serait quoi ? La seconde, à l'inverse, envisagera les mots comme une limitation de la pensée. Les mots dénaturent une pensée toujours plus riche. Enfin, la dernière hypothèse montrera, comme il se doit, les écueils des deux premières perspectives pour ouvrir vers une théorie de l'expression comme possibilité de faire du neuf avec du vieux. Je fais exprès de laisser cela un peu dans l'ombre pour vous laisser la surprise, parce que le problème des plans, c'est que ça en dit souvent trop et qu'à la fin, on a juste l'impression de rencontrer ce qu'on a déjà dit en intro. Donc, on va commencer par une perspective qui, normalement, alors peut-être êtes-vous surpris qu'on commence par là, peut-être certains sont-ils déçus en se disant « mais je voulais qu'on termine par là » parce qu'évidemment, on ne peut pas penser au-delà des mots et j'aurais bien aimé qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Et nous, on commence par là. Donc on commence par cette hypothèse que le langage est la pensée elle-même. Alors, on va se réfugier derrière un auteur et on va un tout petit peu faire une entorse à ce qu'il dit d'autre part. Et cet auteur, alors vous allez frémir puisque c'est Hegel et que ce sera le seul texte difficile de la soirée. Mais il sera très difficile. En revanche, avec l'explication, ça ira très bien. Donc pour Hegel, le langage n'est pas seulement la forme extérieure que prend la pensée, c'est au sein de cette forme, c'est au sein des mots que la pensée se construit. Il n'y a pas de pensée sans mots. Il n'y a pas de mots sans pensée. Hegel insiste sur le rôle positif du langage dans l'élaboration de cette pensée. La pensée n'est pas innée, elle est toujours déjà engagée dans le monde. Citation numéro 1. Rassurez-vous, le commentaire suit. Nous n'avons conscience de nos pensées, nous n'avons de pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre intériorité, et que par suite nous les marquons de la forme externe, mais d'une forme qui contient aussi le caractère de l'activité interne la plus haute. C'est le son articulé, le mot, qui seul nous offre une existence où l'externe et l'interne sont si intimement unis. Par conséquent, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Bon, c'est la première partie de la citation. Alors déjà, on voit l'impuissance des mots lorsque nous ne sommes pas concentrés. On voit aussi, en revanche, on peut s'accrocher, comme toujours chez Hegel, aux quelques phrases qu'on comprend. Le son articulé, le mot, qui nous offre une existence où l'externe et l'interne sont intimement unis. C'est-à-dire que par le mot, ma pensée prend corps, mais ma pensée n'est rien sans le mot. Donc il y a là quelque chose qui lie les deux. Alors, du coup, qu'est-ce à dire ? Ça veut dire simplement que la pensée ne précède jamais les mots qui la disent, mais au contraire, ces mots lui permettent d'émerger à l'être, d'advenir au monde, de s'accomplir, de se réaliser. C'est-à-dire, tout simplement, une pensée ineffable, selon Hegel, est une contradiction dans les termes. C'est une impossibilité. On a tous cette impression que ce qu'on pense est infiniment plus vertigineux que ce qu'on en dit. Eh bien non, nous dit Hegel, dans ces cas-là, on se ment. C'est quelque chose, qui est totalement contradictoire, d'où la suite de la citation. Et il est également absurde de considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui la lie aux mots. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable. Mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement, car en réalité, l'ineffable, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Ainsi, le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Donc l'ineffable, qu'est-ce que c'est ? L'ineffable, qu'ici Hegel stigmatise, c'est les expériences sublimes que l'homme croit faire, ou veut faire, ou voudrait faire. Des expériences qui échapperaient à l'analyse rationnelle et intellectuelle, parce qu'elles seraient trop profondes pour être communicables. Donc aucun mot, dans cette hypothèse, ne pourrait suffire à en rendre compte. Mais Hegel nous dit simplement que l'incommunicable, c'est simplement ce qui n'est pas clair. Bon, on peut reprendre les mots de Boileau, hein, donc ce qui... Pardon, évidemment j'ai un trou à ce moment-là. J'évitais de le mettre dans l'introduction, parce que c'était un peu une tarte à la crème, mais du coup je l'oublie. Voilà. Alors, tout le monde en cœur. Voilà, ce qui se conçoit bien, merci. Voilà. Parce que je suis un peu stressé, en fait, mine de rien. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire nous viennent aisément. Je crois que c'est à peu près ça. Bien. Bon, mais en tout cas, voilà, effectivement, Hegel serait sur ce point assez d'accord. Pour Hegel, là où on ne peut que se taire, il n'y a pas d'expérience véritable. Parce qu'il faut pouvoir la penser, cette pensée, et donc la dire. Ça semble logique. Allons plus loin, on peut en tirer une conséquence. Bon voilà, c'était le seul moment un peu dur, hein. Maintenant c'est cool, vous allez voir. Une conséquence très simple, et on va s'amuser, et on va dénoncer. Si je ne peux penser que par des mots, qui me permettent donc d'accéder au concept des choses, on peut supposer que plus je maîtrise la langue, plus je connais de mots, plus je suis capable de penser finement. C'est logique. Si les mots m'ouvrent à la pensée, appauvrir la langue, c'est appauvrir la pensée elle-même. Alors vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Ça veut dire que ne pas connaître certains mots reviendrait dans cette perspective à ne pas pouvoir s'ouvrir au concept. Et n'en va-t-il pas de même, et c'est là que c'est plus grave, concernant les émotions. Ne pouvoir dire que c'est cool ou je kiffe, pardon, oui, je sais, mais je pouvais pas m'en empêcher. C'est cool, je kiffe, lorsque quelque chose me plaît, plutôt que j'aime, j'apprécie, j'adore, j'estime, je me délecte. Bon, interdit une variété d'émotions fines. De même, alors pour la peur, c'est encore plus flagrant. Méconnaître l'usage des mots craindre, appréhender, s'angoisser, redouter, avoir en horreur, s'inquiéter, etc., c'est peut-être s'interdire de ressentir finement une émotion. C'est le problème qu'on a rencontré il y a une poignée d'années, lorsque les élèves se mettaient à dire, ils avaient juste deux gammes d'émotions, mais parfois, quand ils se donnaient un genre, évidemment, ils étaient plus intelligents que ça. Mais à force de dire « pète sa mère », qui voulait dire tout ce qui était bien, et « pue sa mère », je vous jure que ça existe, pour dire, qualifier ce qui était mauvais, évidemment, on appauvrit la langue. Mais est-ce qu'on appauvrit que la langue? C'est la question. Donc, faire des raccourcis et ne garder qu'un ou deux marqueurs pour une émotion, ce n'est peut-être pas seulement ne pas réussir à la communiquer, c'est aussi ne pas pouvoir la penser, et peut-être même, plus grave, la ressentir. Alors, l'hypothèse n'est pas nouvelle. On se souvient évidemment de 1984, où Orwell envisageait justement un système totalitaire chargé d'empêcher les hommes de penser en restreignant le nombre de mots. Alors, évidemment, dans cette horrible hypothèse, on évite toute possibilité de contestation, mais aussi, hélas, de réflexion. Mais en allant au bout de l'hypothèse, on peut se demander quelque chose, enfin, se demander si la perspective actuelle ne serait pas encore pire. L'horreur, ce serait une société qui n'a plus accès au langage et à la pensée fine, non pas parce qu'on le lui interdit, en limitant les mots, et qu'on la manipule, mais parce qu'elle préfère aller à l'essentiel, qu'elle se désintéresse du langage. Elle préfère aller, cette société, à la facilité, pour éviter de s'encombrer simplement d'un vocabulaire trop riche et trop difficile à maîtriser. Bon, après, j'arrête d'enfoncer un petit peu le langage Jones. Il paraît que d'ailleurs, même dire Jones, c'est complètement déjà être vieux con. Mais le problème du langage SMS, ce n'est pas qu'il invente une orthographe fictive, mais plutôt qu'il remplace une large gamme de mots possibles par un seul code, certes inventé, mais qui appauvrit le sens du message. Bon. Alors, plus je connais de mots, plus je pense avec précision, très bien. Mais réduire la pensée au langage, c'est aussi rêver d'une langue pure, qui ne serait justement pas déformée par nos habitudes et par nos désirs sociaux. Parce que, on le sait, toute langue véhicule ses propres convictions. Et ne pouvoir penser qu'à travers le langage, si on l'admet, c'est aussi hériter d'une culture qui ne nous permet pas de penser complètement librement. Les choses extérieures à nous, mais aussi et surtout nos éprouvées les plus intimes, ne nous apparaissent jamais tels qu'ils sont en eux-mêmes, mais à travers le cadre linguistique qui est le nôtre. D'une langue à l'autre, ce cadre n'est pas exactement le même. Et c'est ce qui fait la difficulté propre aux traductions, qui ont pour fonction non seulement d'interpréter les formes d'expression d'une langue à l'autre, mais aussi d'une culture à l'autre. Je vais vous prendre un exemple rigolo, enfin, que je juge, selon mes propres critères, rigolo. Alors, lorsqu'il y a des différences culturelles très marquées, par exemple, j'ai lu, bon, c'est pas forcément vrai, mais a priori c'est tout à fait plausible, que les Japonais ne comprenaient pas les Walt Disney. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est incompréhensible, selon eux, que l'action s'arrête pour que les personnages se mettent à chanter, même dans les moments dramatiques. Alors, je suis allé vérifier, oui, Blanche-Neige est morte, dans son cercueil de verre, et le prince arrive, quelle est sa réaction ? Non pas pleurer, mais chanter. Il voit Blanche-Neige morte, et il se met à dire, très exactement, « Un chant, je n'ai qu'un seul chant. » Vous voyez, vous, chanter, lorsque vous venez de perdre la chair de votre chair, enfin, bon, plutôt l'amour de votre vie, bon, c'est curieux. Donc là, les Japonais font « Qu'est-ce qui se passe ?» Bon. Alors, quiconque change de langue, imaginez, ne change pas seulement d'expression matérielle de la pensée, mais de manière d'être au monde. Il y a donc des intraduisibles d'une langue à l'autre. Ils ne peuvent pas être traduits tout simplement parce que, justement, ils engagent toute une façon de voir le monde. Mais à l'inverse, on est quand même gêné. Parce que si on se débarrasse de tous ces artefacts qui font la spécificité des langues, on a une langue pure, on peut imaginer. Mais à ce moment-là, elle nous donnerait, certes, les choses telles qu'elles sont, sans les filtres culturels, mais elle serait sans doute plus proche du calcul mathématique que de ce qu'on entend ordinairement par langage. Parce qu'un langage peut se passer de ses spécificités qu'il caractérise. D'ailleurs, la langue universelle recherchée par les philosophes a un nom absolument terrifiant. La mathésis universalis. C'est affreux. Bien. Donc, une conception logique faite de purs rapports entre les signes permettrait-il d'exprimer correctement une émotion ou un état d'esprit ? En gagnant en clarté, en évitant les malentendus, est-ce qu'on ne perdrait pas tout ce qui fait le charme d'une langue ? Et est-ce qu'on pourrait, par une sorte d'algorithme, évoquer quelque chose d'aussi intime que notre vécu ? Eh bien, non, deuxième partie. Non, nous dit Bergson, justement pour cette raison que le langage est une tradition, tradition pas du tout, ça c'est un lapsus, le langage est une trahison de ma pensée. Bon, cherchez pas derrière tous les lapsus, il doit y avoir probablement quelque chose de sexuel, mais vous ne le saurez jamais. Donc, le langage met des étiquettes sur les choses. Voilà ce que va nous dire Bergson. Bergson va dire que le vécu est par la nature même du langage presque toujours indicible. Et que c'est en quelque sorte par un arrachement au langage, en traversant sa nature grossière qui est destinée aux activités utilitaires, qu'on parvient quand même en partie à le retranscrire. Texte numéro 2. Il faut que je trouve moi-même mes textes. Voilà. Pour tout dire, nous ne voyons pas les choses elles-mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots, à l'exception des noms propres, désignent tous des genres. Le mot, qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal, s'insinue entre elle et nous, et on masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même. Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre ? Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles, comme en un champ clos, où notre force se mesure utilement avec d'autres forces. Et fascinés par l'action, attirés par elle, pour notre plus grand bien, sur le terrain qu'elle s'est choisi, nous vivons dans une zone mitoyenne entre les choses et nous, extérieurement aux choses et extérieurement aussi à nous-mêmes. Donc, on le comprend, Bergson inverse totalement la perspective hegelienne, en tout cas la première qu'on a évoquée, puisque le langage, loin d'être constitutif de la pensée elle-même, ne peut que la traduire imparfaitement. Il opère le langage des généralités grossières. Bon, ces généralités sont certes indispensables à la communication. Mais, malgré tout, l'individualité même des êtres, ce qui fait votre spécificité, est totalement inaccessible au langage. Voilà ce que nous dit Bergson. Quand on dit « je t'aime », pour reprendre mon exemple, on pense chacun des choses extrêmement différentes, avec énormément de sensations et de sentiments qui se mêlent. Mais le « je t'aime » est universel. Donc, je suppose que votre femme ou votre époux imagine que derrière, il y a beaucoup d'autres choses, mais ce qu'on dit, on le dit d'une façon universelle. Donc, le langage opère en effet des découpages dans la réalité. C'est pour ça qu'il est fait, mais ces découpages ne peuvent que nous faire accéder à la perception ordinaire des choses, et non pas à la perception fine et subjective qui est propre à chacun. Ces découpages sont avant tout utiles, nous disions, ils correspondent à ce que la communauté sociale et culturelle qui est la nôtre a appris à saisir de la réalité. Saisir de la réalité, mais en vue toujours d'agir sur elle. Donc, le langage n'a pas du tout pour but de dire ce qui est. Ce n'est pas son but. Son but, c'est de permettre l'action. Son but, c'est de permettre la communication. Passe-moi le sel. J'ai faim. Fais-moi à manger. Je parle aussi autrement à ma femme, bien sûr. Bien. Cela ne signifie pas, néanmoins, que nous soyons destinés à rester dans le cadre mental que la langue maternelle nous attribue. Citation 3, et là, vous allez voir un paradoxe extraordinaire à la fin. J'attire votre attention sur la beauté du langage, justement, de Bergson, à ce moment précis. La plupart du temps, le moi touche au monde extérieur par sa surface. Et comme cette surface conserve l'empreinte des choses, il associera par contiguïté des termes qu'il aura perçus juxtaposés. C'est à des liaisons de ce genre, liaisons de sensations tout à fait simples, et pour ainsi dire impersonnelles, que la théorie associationniste convient. Mais à mesure que l'on creuse au-dessous de cette surface, à mesure que le moi redevient lui-même, à mesure aussi, ces états de conscience cessent de se juxtaposer pour se pénétrer, se fondre ensemble, et se teindre chacun de la coloration de tous les autres. Ainsi, chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr. Et cet amour, cette haine, reflète sa personnalité tout entière. Cependant, le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous les hommes. Aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour, de la haine et des mille sentiments qui agitent l'âme. Nous jugeons le talent d'un romancier à la puissance avec laquelle il tire du domaine public, où le langage les fait ainsi descendre, des sentiments et des idées auxquels il essaie de rendre, par une multiplicité de détails qui se juxtaposent, leur primitive et vivante individualité. Mais de même qu'on pourra intercaler indéfiniment des points entre deux positions d'un mobile sans jamais combler l'espace parcouru, ainsi, par cela seul que nous parlons, par cela seul que nous associons des idées les unes aux autres, et que ces idées se juxtaposent au lieu de se pénétrer, nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent. La pensée demeure incommensurable avec le langage. Voyez l'hypocrisie de Bergson. Il nous dit à quel point le langage est impuissant à travers un des plus beaux textes qui soit. C'est incroyable. Le langage ne peut rien. Les mots ne sont que juxtaposés et on vibre et on tremble et on pleure parce que c'est beau. C'est paradoxal. Enfin, il me semble. Donc, la pensée est toujours plus riche que ce que nous permet d'en exprimer le langage. Ouf, c'est bien ce qui me semblait quand même. Il me semble bien que quand je dis « je n'arrive pas à exprimer, c'est beaucoup plus profond », j'ai pas tout à fait tort quand même. Il me semble bien qu'il y a des choses qui débordent ma capacité d'expression. Le mot appauvrit les états mentaux en les généralisant parce qu'il les fige. Voilà ce que nous dit Bergson. Les mots donc, c'est d'abord des concepts généraux, destinés, on l'a vu, à communiquer des messages utiles, destinés à l'action. Les mots ont une fonction pratique. Apprends ta leçon. Je dis à ma fille il y a très peu de temps. Ça ne marche pas forcément, mais on cherche un effet. Pour cette raison, ils ont d'abord vocation à l'universalité. Donc pour les pensées ordinaires, ça va très bien. Mais qu'en est-il des pensées plus profondes ? Eh bien, Bergson nous dit, elles ne se saisissent pas par l'intelligence, elles se saisissent d'abord par intuition. Et il en va ainsi pour toutes les pensées fines, qui ne peuvent pas être un assemblage de concepts prédéfinis, qui seraient simplement, excusez-moi de faire ça, j'ai juste oublié ma petite montre que j'ai l'habitude, qui seraient simplement préordonnées. Alors, bon, il y avait un texte de Bergson sur l'intuition, vous pourrez le regarder, mais il me semble que ce n'est pas forcément la peine de le lire, puisque, on l'a compris, tout philosophe, par exemple, toute personne qui cherche vraiment à penser, s'appuiera sur une intuition fondamentale. Alors, prenons l'exemple de Hegel, puisqu'on l'avait déjà mobilisé, et vengeons-nous un peu. Hegel, finalement, quand on suit l'idée de Bergson, on pourrait dire qu'il a cherché toute sa vie à exprimer une intuition. Il y avait une intuition fondamentale qui devait passer probablement par une obsession du chiffre 3. Il y avait une volonté derrière à l'œuvre, mais il manquait une expression parfaite. Sa pensée remplit des volumes d'une densité incroyable. Sans cesse, les mêmes idées sont reprises, approfondies, retravaillées, mais aucune phrase ne peut la retranscrire correctement. Alors on peut effectivement considérer que la pensée même de Hegel se précise à mesure qu'il écrit. Oui, assurément. Mais Hegel ne pouvait pour autant en faire le tour. Voilà ce que nous dit Bergson. Il aurait pu écrire sur 10 vies, il n'aurait pas pu faire le tour d'une intuition profonde qui se retrouve à travers toute son œuvre, mais qui ne l'épuise pas. Parce que rien ne correspond exactement à une intuition une fois qu'elle est figée par les mots, une fois qu'elle est transfigurée. Une infinité de formulations était possible, mais l'expression de chacune en transforme la portée, le message, la teneur. Parce que le concept s'adresse à l'intelligence, il fonctionne toujours par découpage. L'intelligence cherche toujours à traduire une intuition en la figeant. Et pourtant, il y a quand même une solution. Bergson nous dit qu'il est possible de détourner cette fonction pratique du langage et de le rediriger vers la profondeur. Mais il faut pour cela être écrivain ou poète. L'artiste seul peut rediriger le langage vers la réalité du monde, se dégager de la pratique, se dégager de cet aspect utilitaire propre au langage. Parce qu'il est capable, l'artiste, de voir le monde objectivement. Parce qu'il s'en fiche de la réalité telle que, en général, on l'entend. C'est-à-dire qu'il s'en fiche de tout ce qui est utile. Il s'en désintéresse. Donc, le poète va mobiliser le détour, un certain style. Il va nous amener à une observation fine, bien au-delà d'observations conventionnelles. Il va essayer de nous conduire à ce que sont les choses dans leur réalité profonde. Alors, sans même avoir besoin, par exemple, d'employer une seule fois un nom commun, par le travail de l'artiste, on peut deviner ce qu'est l'objet dont il nous parle. On va tester ça tout de suite. On a une sorte de devinette. Donc vous allez, voilà, ce sera une sorte de cours interactif, pardon, de conférence interactive, où vous allez même pouvoir essayer de deviner, et vous allez voir que c'est très clair, ce dont nous parle Francis Ponge dans cet extrait. Extrait devinette, donc l'extrait numéro 5. Alors j'ai volontairement enlevé 2-3 mots, hein. Pardon, Francis Ponge, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Elle est blanche et brillante, informe et fraîche, passive et obstinée dans son seul vice, la pesanteur, disposant de moyens exceptionnels pour satisfaire ce vice, contournant, transperçant, érodant, filtrant. À l'intérieur d'elle-même, ce vice aussi joue. Elle s'effondre sans cesse, renonce à chaque instant à toute forme, ne tend qu'à s'humilier, se couche à plat ventre sur le sol, quasi cadavre, comme les moines de certains ordres. Toujours plus bas, telle semble être sa devise, le contraire d'Excelsior. Elle m'échappe, me file entre les doigts, et encore, ce n'est même pas si net qu'un lézard ou qu'une grenouille. Il m'en reste aux mains des traces, des taches relativement longues à sécher ou qu'il faut essuyer. Elle m'échappe et cependant me manque. sans que j'y puisse grand-chose. Idéologiquement, c'est la même chose. Elle m'échappe, échappe à toute définition, mais laisse dans mon esprit et sur ce papier des traces, des taches informes. Inquiétude, sensible au moindre changement de la déclivité, sautant les escaliers les deux pieds à la fois, joueuse, puérile d'obéissance, revenant tout de suite lorsqu'on la rappelle en changeant la pente de ce côté-ci. C'est l'eau, bien sûr. Et d'ailleurs, ça m'a donné soif. On peut tester. Mais là, on voit ce qu'est l'eau. On le voit bien mieux que quand je dis c'est de l'eau. Alors, vous connaissez l'eau. Hein. L'eau, c'est le truc, c'est de l'eau, quoi. Bon, l'eau, c'est transparent, inodore, incolore. Oui, bon. Là, on voit ce que c'est, l'eau. Là, on le saisit. Là, on est dans la profondeur. Par le détour, on a quelque chose de bien plus profond. C'est ainsi, en quelque sorte, malgré le langage, et parce que l'artiste est détaché des réalités matérielles, donc qu'il voit le monde tel qu'il est, dans ses dimensions sensibles. Donc le langage n'est pas, selon Bergson, d'abord destiné à exprimer une pensée, ni à dire une réalité, c'est un outil. Un outil socialement, techniquement efficace. Un outil de manipulation de la réalité, et qui n'a pas du tout pour vocation de la révéler. Ce n'est donc, et c'est là l'idée la plus essentielle, ce n'est donc que par accident que l'intelligence d'un écrivain, qui est moins arrimée que les autres hommes à l'utilité, se concentre sur la réalité et parvient à la saisir dans ses nuances infinies. Donc l'artiste va juste utiliser le langage comme un véhicule pour faire passer une intuition du monde. Donc sous la plume du romancier, le langage sublime l'intuition. Enfin, en tout cas, se sublime lui-même et parvient à nous faire vivre l'intuition. Donc, reprenons une dernière fois ce fameux exemple de l'amour profond. Plutôt que le simple code ritualisé « je t'aime », oui, je t'aime, c'est devenu presque, avec ma femme, une sorte d'habitude. On ne peut pas s'empêcher de dire « je t'aime » quand il y en a un qui dit « je t'aime », mais on le dit régulièrement. Bon, alors, tu veux bien prendre Johan ? Je t'aime. Oui, bien sûr, je t'aime. Bon, c'est un code, c'est un réflexe. En revanche, on est très agacé quand le code n'est pas respecté. Et en effet, je ne serais pas très content si au moment où je lui demande vraiment si elle m'aime, ma femme me répondait « on en a déjà parlé ». Ou « j'ai déjà répondu à cette question ». Donc les amoureux ne se lassent pas de dire « je t'aime » parce que la pensée est aussi un acte. Mais cette pensée, il reste qu'elle est impuissante à exprimer cette profondeur de cet amour. Ou alors elle le peut, mais par une métaphore, par le détour du récit, auquel cas elle use de détours pour nous faire vivre ces fameuses intuitions. En somme, les mots ont pour vocation d'évoquer la généralité. L'écrivain ou le dramaturge, au contraire, détourne cet usage général pour nous faire vivre une réalité particulière et individuelle, et, nous dit Bergson, finalement, la sienne. 6, citation 6. Ce que le drame va chercher et amène à la pleine lumière, c'est une réalité profonde qui nous est voilée, souvent dans notre intérêt même, par les nécessités de la vie. Sous la vie tranquille, bourgeoise, que la société et la raison nous ont composée, il va remuer en nous quelque chose qui, heureusement, n'éclate pas, mais dont il nous fait sentir la tension intérieure. Il donne à la nature sa revanche sur la société. Ce qui nous a intéressés, c'est moins ce qu'on nous a raconté d'autrui que ce qu'on nous a fait entrevoir de nous. Tout un monde confus de choses vagues qui auraient voulu être et qui, par bonheur, pour nous, n'ont pas été. Il suit de là que l'art vise toujours l'individuel. Ce que le dramaturge nous met sous les yeux, c'est le déroulement d'une âme. C'est une trame vivante de sentiments et d'événements. Quelque chose qui s'est présenté une fois pour ne plus se reproduire jamais. Nous aurons beau donner à ces sentiments des noms généraux, dans une autre âme, ils ne seront plus la même chose. Rien de plus singulier que le personnage d'Hamlet. S'il ressemble par certains côtés à d'autres hommes, ce n'est pas par là qu'il nous intéresse le plus. Donc, l'artiste, et particulièrement l'écrivain, le poète, le dramaturge, parle de lui, et en parlant de lui, il nous fait vivre des intuitions de nous. Donc, Ce que l'artiste a vu, on ne le reverra pas, mais son œuvre est un exemple qui nous sert de leçon. L'universalité est dans l'effet que pourra avoir une œuvre, mais pas dans la cause. Autrement dit, il peut y avoir effectivement un changement durable dû à une œuvre, mais cette œuvre rejoindra à chaque fois toujours l'individuel, le personnel, le vécu, l'émotion. On peut se dire d'ailleurs que c'est un peu la tentative de Proust, dans La recherche du temps perdu, que, à travers des volumes et des volumes, faire ressentir son état très exact, subjectif, qui faisait aller de, je ne sais pas, de chez lui à l'église de Combray, revenir, le moment où il met la main dans les cheveux d'Albertine, qui n'arrive pas à bercer ses pensées. Tout cela sur des pages et des pages, magnifiques d'ailleurs, superbes. Mais avec cette volonté qui de toute façon ne pourra jamais aboutir, de faire vivre très exactement chacun de nous ce qu'il vivait très exactement en lui-même, à travers les mots. Sauf que la malédiction est là, le langage ne pourra faire vivre en chacun que ce que vous interprétez de Proust. Mais en même temps, est-ce vraiment une malédiction? C'est toute la question. Quoi qu'il en soit, le mieux que puisse faire l'écrivain, ce serait alors de faire se reconnaître en moi la profondeur de mes propres sentiments. Est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas dire qu'il contribue, par son utilisation unique des mots, à faire apparaître de nouveaux sentiments, à donner une nouvelle coloration aux miens? Et surtout, est-ce que, et c'est surtout ça le problème, l'écrivain détourne vraiment le langage pour nous faire vivre nos intuitions dans toute leur richesse? Est-ce qu'en faisant ça, au contraire, on ne pourrait pas dire qu'il renoue avec la fonction véritable du langage, qui serait moins de communiquer l'utile que d'amener l'étonnement et la pensée, en créant du sens? Parce que, et on va devoir se poser la question, si on l'accepte, ce serait réduire le langage à une simple collection de mots. Et peut-être est-ce là le problème et de Hegel et de Bergson. Hegel, le langage est la pensée, parce que les mots sont des concepts universels. Pour Bergson, le langage défigure la pensée, parce que les mots sont des étiquettes sur les choses, qui figent une intuition vivante. Mais est-ce que c'est pas là, dans les deux cas, se méprendre sur la nature même du langage? Alors, comme on a un tout petit peu de temps, je ne savais pas si j'allais en parler, j'ai quand même envie, avant de clore tout à fait ce point, cette partie, de vous faire vivre ce que pourrait être justement le problème de la couleur rouge, dans un des textes qui me semble être les plus beaux de Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible. Sauf que celui-ci, je ne l'ai pas mis, ne cherchez pas, parce que je ne savais pas si j'allais le mettre. Il est un peu complexe, certes, mais il me semble que là, il fait saisir profondément ce que pourrait être la description profonde de la simple couleur rouge. Prenons ce rouge qui, d'ailleurs, n'est pas inintéressant. En général, fonction utilitaire du langage, c'est rouge. C'est ce que je pourrais vous dire. C'est rouge. J'arrive pas à dire mieux. Merleau-Ponty va dire mieux, parce qu'il va détourner le langage. Mais ça nous servira de très bon tremplin pour comprendre d'une nouvelle façon ce que pourrait bien être le langage. Alors, le rouge. Il faut comprendre d'abord que ce rouge sous mes yeux n'est pas, comme on dit toujours, un coilé, une pellicule d'aide sans épaisseur. Message à la fois indéchiffrable et évident, qu'on a ou qu'on n'a pas reçu, mais dont on sait, si on l'a reçu, tout ce qu'il y a à savoir. Et dont il n'y a en somme rien à dire. Il demande une mise au point, même brève. Il émerge d'une rougeur, moins précise, plus générale, où mon regard était pris et s'enlisait avant de le fixer, comme on dit si bien. Et si maintenant que je l'ai fixé, mes yeux s'enfoncent en lui, enfoncez-vous dans le rouge, mes yeux s'enfoncent en lui, dans sa structure fixe, ou, s'il recommence d'errer alentour, le coilé reprend son existence atmosphérique. Sa forme précise et solidaire d'une certaine configuration ou texture laineuse, métallique ou poreuse. Et il est peu de choses en regard de ses participations. Et là la phrase qui tue. Claudel dit à peu près qu'un certain bleu de la mer est si bleu qu'il n'y a que le sang qui soit plus rouge. Oh, c'est beau. La couleur est d'ailleurs variante dans une dimension de variation, celle de ses rapports avec l'entourage. Ce rouge n'est ce qu'il est qu'en se reliant de sa place à d'autres rouges autour de lui, avec lesquels il fait une constellation, ou à d'autres couleurs qu'il domine, ou qui le domine, qui l'attire, ou qui l'attire, qu'il repousse, ou qui le repousse. Le blanc, par exemple, de cette feuille. Bref. C'est un certain nœud dans la trame du simultané et du successif. C'est une concrétion de la visibilité. Ce n'est pas un atome. À plus forte raison, la robe rouge, tient-elle de toutes ses fibres au tissu du visible et par lui à un tissu d'être invisible. Ponctuation dans le champ des choses rouges, qui comprend les tuiles des toits, le drapeau des gardes-barrières de la Révolution, certains terrains près d'Aix ou à Madagascar. Elle l'est aussi dans celui des robes rouges, qui comprend, avec des robes de femmes, des robes de professeurs, d'évêques et d'avocats généraux, et aussi dans celui des parures et celui des uniformes. Et son rouge à la lettre n'est pas le même selon qu'il paraît dans une constellation ou dans l'autre, selon que précipite en lui la pure essence de la Révolution de 1917, ou celle de l'éternel féminin, ou celle de l'accusateur public, ou celle des tziganes vêtus à la hussarde, qui régnait il y a 25 ans sur une brasserie des Champs-Élysées. Un certain rouge, c'est aussi un fossile ramené du fond des mondes imaginaires. Si l'on faisait état de toutes ses participations, on s'apercevrait qu'une couleur nue, et en général invisible, n'est pas un morceau d'être absolument dur, insécable, offert tout nu à une vision qui ne pourrait être que totale ou nulle, mais plutôt une sorte de détroit entre des horizons extérieurs et des horizons intérieurs. Toujours béant. Quelque chose qui vient toucher doucement et faire résonner à distance diverses régions du monde coloré ou visible, une certaine différenciation, une modulation éphémère de ce monde, moins couleur ou chose donc que différence entre les choses et des couleurs, cristallisation momentanée de l'être coloré et de la visibilité. Entre les couleurs et les visibles prétendus, on retrouverait le tissu qui les double, les soutient, les nourrit, et qui, lui, n'est pas une chose, mais possibilité, latence et chair des choses. Bon, on ne comprend pas tout, mais qu'est-ce que c'est beau. Bien, donc le langage transfigurerait complètement sa fonction première qui serait l'utilitaire. Mais, et c'est ce que nous allons voir dans une dernière partie, est-ce vraiment sa fonction naturelle? Le langage est-il naturellement destiné à l'utilitaire? Ou est-ce là une vision atomiste du langage, c'est-à-dire comme une collection de mots? Or, il se trouve que pour que la pensée puisse prendre possession d'elle-même, il est indispensable qu'elle passe par l'expression. Le langage nous permet d'objectiver nos idées, de les rendre conscientes. Notre tendance à séparer la pensée du langage est victime d'une illusion. Il nous semble qu'il faut déjà avoir pensé pour parler. La pensée ne se saisit que dans son effectuation. Son intention ne se réalise qu'au fur et à mesure de l'élocution, de l'expression. Elle n'est pas à l'origine, elle est au terme de mon discours. Ce qu'il y a au départ, c'est plutôt un projet, une sorte de visée, une intention de signifier. Texte numéro 7. Si la parole présupposait la pensée, on ne comprendrait pas pourquoi la pensée tend vers l'expression comme vers son achèvement. Pourquoi l'objet le plus familier nous paraît indéterminé tant que nous n'en avons pas retrouvé le nom? Pourquoi le sujet pensant lui-même est dans une sorte d'ignorance de ses pensées tant qu'il ne les a pas formulées pour soi ou même dites et écrites? Une pensée qui se contenterait d'exister pour soi, hors des gènes de la parole et de la communication, aussitôt apparue, tomberait à l'inconscience. Ce qui revient à dire qu'elle n'existerait même pas pour soi. Ainsi, au moment où je parle, je ne sais pas d'avance exactement ce que je suis sur le point de dire. D'ailleurs, ma phrase n'était pas construite correctement. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de penser. Je ne vais pas dire « c'est-à-dire que je n'ai pas le temps de penser dans ma tête » puis dire « c'est-à-dire que je n'ai pas le temps de penser ». Non, ça va beaucoup trop vite. Je pense en parlant. L'expression se fait d'elle-même. Il y a une impulsion qui est donnée au départ. J'ai envie de parler, j'ai envie d'énoncer une idée. Et cette expression, on apprend aussi sur cette idée, au moment même où j'en parle. Alors, vous n'allez pas faire tous les essais maintenant, parce que ça ferait un brouhaha pas possible. Vous essayerez chez vous. Essayez de penser, puis parler, non, ce n'est pas possible. Essayez d'anticiper ce que vous allez dire. Non, quand vous êtes pris dans le discours, il se fait par lui-même. Mais un certain style va s'imprimer sur ce discours, qui ne ressemble à aucun autre. Là, par exemple, je trouve que je suis un peu long. Mais c'est les mots qui me débordent, donc ce n'est pas tout à fait de ma faute. C'est-à-dire que les phrases se constituent progressivement, et je me laisse un peu habiter par ce langage. Bah, peut-être, certains diront, je m'écoute parler. Mais c'est peut-être aussi mon style. Donc, je pense en parlant. Les idées se développent. Chaque phrase ordonne des mots un peu différemment. Et ce sens se transforme à partir d'intentions nouvelles qui se dessinent au fur et à mesure que mes mots progressent. Ce qui se dit alors n'a encore jamais été dit de cette façon. et je le découvre moi-même en le disant. Bon, là, c'était à peu près écrit, vous l'avez vu, mais je le découvre quand même moi-même en le disant. C'est-à-dire, d'un coup, je me dis, ah tiens, c'est pas con ce que je dis. Ou alors, à l'inverse, je peux dire, ah non, là, je suis en train de m'enfoncer dans quelque chose qui ne va pas. Mais je reconnais en moi cette impulsion, mais je ne sais pas exactement comment le langage qui semble me déborder va d'un seul coup donner corps à ces pensées, ou plutôt comment mes pensées vont s'incarner. Parce que je ne pense pas avant de parler. Donc le langage n'est pas du tout cet appauvrissement de la pensée qu'évoquait Bergson, puisqu'il en est la condition, ou l'expression. Mais il n'est pas non plus réductible à une suite de mots qui seraient autant de concepts clairs, comme le suggérait le texte de Hegel. Donc ce que je dis, au moment où je le dis, est compris différemment par chacun d'entre vous. C'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que tout le monde comprend la même chose, parce que moi je comprends, mais non. Chacun comprend à partir de son vécu propre, à partir de ce qu'il connaît, de la philosophie, de moi, d'autres choses. Certains d'ailleurs, à partir du cours que je donne en terminale, dans lequel ils reconnaissent un peu des effets de style, je ne sais pas. Donc ce n'est pas une suite de mots qui serait autant d'idées à saisir d'une façon unilatérale, pour chacun de la même façon. C'est un peu ce que nous dit Saussure. Saussure nous dit « Les signes un à un ne signifient rien. Chacun d'eux exprime moins un sens qu'il ne marque un écart de sens entre lui-même et les autres signes. » La langue, c'est un écart de sens. Les mots se comprennent qu'à partir de l'écart de sens par rapport aux autres mots de ma phrase. Et ainsi des phrases par rapport au discours en général. Donc, alors évidemment, cette idée est un peu contraire au bon sens. On se dit que si le terme A et le terme B n'avaient pas du tout de sens en eux-mêmes, on ne voit pas comment il y aurait contraste entre eux. Comment les opposer. Et on ne voit pas non plus comment on pourrait apprendre une langue s'il fallait partir du tout de la langue pour en comprendre les parties. Vous comprenez ? Si c'est à chaque fois un réseau d'opposition, on ne rentre jamais dedans. Parce qu'on l'oppose à quoi ? Oui, mais l'objection perd son sens au moment même où se fait l'acte de parole. Exactement comme on pourrait se croire enfermé dans le paradoxe de Zénon, qui m'a toujours un peu fait rire, même s'il est assez profond, où on essaie de vous prouver que cette distance-là ne peut pas être parcourue. Il n'y a pas de mouvement parce que cette distance se fait en un certain nombre de points, une infinité de points. L'infini ne peut pas être parcouru puisque l'infini est toujours subdivisible à l'infini. Donc ce mouvement est impossible. Ah mince, je viens de le faire. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour le langage ? Il est impossible de rentrer dans une langue qui est un jeu de... qui est un tout, et qui est un jeu de position entre les mots. Eh bien si, puisque je suis en train de parler. Donc l'acte de parole lui-même montre la possibilité de cet apprentissage. Alors, Saussure parle d'un sens diacritique, c'est-à-dire la langue n'est pas un ensemble, un système d'idées positives, c'est un système de différences. Les mots eux-mêmes pris comme unité ne signifient rien. Ils n'ont de sens que par rapport à la phrase. Et celle-ci, par rapport à d'autres phrases, au sein d'un discours. Problème, comment se fait alors l'apprentissage d'une langue ? Si les parties valent d'emblée comme tout, ça veut dire que l'enfant doit d'un coup saisir le langage, l'expression. Et c'est exactement ce que va essayer de montrer Merleau-Ponty. Le langage, alors voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant, vous pouvez essayer d'étudier avec vos enfants, moi j'essaye d'étudier ça sur mon fils, ça a beaucoup de terrain d'expérimentation. Il y a un moment, alors pour l'instant j'ai pas pu encore voir ce moment, mais où l'enfant passe du babillage à l'expression. Et pour Merleau-Ponty, il y a une différence radicale entre le fait de dire da 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 et le fait d'énoncer un mot, ou d'employer des phonèmes qui ont vocation de mots. Il y a le moment où l'enfant babille, c'est-à-dire se fait plaisir, énonce des mots, entend sa voix, s'écoute. Et puis le moment où il essaye vraiment de communiquer. Ben, Merleau-Ponty nous dit, ces deux moments sont absolument impossibles, ils ne sont pas dans une continuité. Donc le mot chez l'enfant fonctionne d'abord comme une phrase, et même certains phonèmes comme mots. Le phonème complexe « ama, 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 ama » de mon fils qui a 7 mois fait fonction de maman et de nourriture en général, j'ai cru le remarquer. C'est toujours « ama, 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 ama » quand il veut le faire. Bon, et bien ça veut dire qu'il commence à comprendre l'expression du langage. En fait, c'est donc la langue tout entière, comme système d'expression, comme manière unique de jouer avec la parole, qui est anticipée par l'enfant, avec ses premières oppositions de phonèmes. sans quoi la compréhension même de ce qu'est le langage serait impossible. Ou bien l'enfant comprend ce qu'est le langage, saisit ça comme un tout, ou bien il est encore dans le babillage et il ne le comprend pas. Donc, alors une petite citation que je ne vous ai pas mise, puisqu'elle est vraiment trop petite. « La langue, nous dit Merleau-Ponty dans Cygne, la langue, comme tout, permet seule de comprendre comment le langage attire l'enfant à soi et comment il en vient à entrer dans ce domaine dont les portes, croirait-on, ne s'ouvrent que de l'intérieur. Ainsi, si c'est le rapport latéral du signe au signe qui rend chacun d'eux signifiant, le sens n'apparaît qu'à l'intersection et comme dans l'intervalle des mots. » Cette idée va être essentielle, l'intervalle des mots. « Ma parole, mon style, c'est la façon dont je m'approprie le langage d'une manière toujours unique. Ce que je dis en ce moment est inédit. Non pas seulement en raison du choix des mots, qui est imprévisible. Essayez de deviner ma phrase suivante. Vous n'y arrivez pas. Sauf si vous avez copié mon truc. Mais par ce ton qui est le mien, ce rythme de parole un peu rapide, ces expressions du visage au moment où j'aborde tel ou tel point. Vous savez, je fronce les sourcils, je le rajoute un peu. Cette manière d'accentuer telle syllabe, etc. Il n'y a donc pas une pensée à communiquer qui serait exprimée de telle ou telle manière, car il n'y a pas un seul sens, un sens original dans ce que je dis. Citation numéro 8. Nos analyses de la pensée font comme si, avant d'avoir trouvé les mots, elle était déjà une sorte de texte idéal que nos phrases chercheraient à traduire. Mais l'auteur lui-même n'a aucun texte qu'il puisse confronter avec son récit, aucun langage avant le langage. Si la parole le satisfait, c'est par un équilibre dont elle définit elle-même les conditions, par une perfection sans modèle. Beaucoup plus qu'un moyen, le langage est quelque chose comme un être, et c'est pourquoi il peut si bien nous rendre présent quelqu'un. La parole d'un ami au téléphone nous le donne lui-même, comme s'il était tout dans cette manière d'interpeller et de prendre congé, de commencer et de finir ses phrases, de cheminer à travers les choses non dites. Le sens est le mouvement total de la parole et c'est pourquoi notre pensée traîne dans le langage. Est-ce que je peux vous donner encore un exemple avec ma femme ? Bon, c'est une femme fictive. J'ai vraiment une femme, mais parfois je donne des exemples en parlant de ma femme alors que c'est pas vraiment ma femme. Mais là, c'est ma femme. Quand ma femme est au téléphone, elle a tendance à changer de ton, et vous repérerez que c'est pareil pour vous, hein, suivant son interlocuteur. Quand elle est avec sa sœur, elle est toujours un peu gênée. Je ne sais pas pourquoi, probablement un truc à régler. Et du coup, elle se met à rire à la fin de chaque phrase, ce qui ne lui ressemble absolument pas. « Salut, ça va ?» Non, mais ça ne lui ressemble pas, ce n'est pas son ton. Quand elle est avec sa mère, elle est très froide. « Allô ?»« Oui, ça va. » Quand elle est avec moi, elle est un peu comme avec sa mère. Mais il y a des différences de ton pour chaque personne. Alors c'est toujours intéressant à observer de l'extérieur. Avec vos amis, c'est pareil. Vous avez l'ami avec qui vous êtes plus sombre, parce qu'il vous aime comme ça. L'ami avec qui vous êtes plus rigolo. Et généralement, vous êtes embêté, parce qu'on ne peut pas vous voir à la fois comme quelqu'un de rigolo et, par exemple, de subtil et fin, bon, et de profond, je veux dire. Du coup, il vous faut plusieurs amis. Bon. Mais tout ça pour dire que, effectivement, on module même son style en fonction de la personne à qui on s'adresse. Donc il n'y a pas de texte original dont la langue serait la traduction. Et l'idée même d'une expression directe est un non-sens. Tout langage est indirect ou allusif. Saussure, par exemple, remarque que l'anglais qui dit « the man I love » s'exprime aussi complètement que le français qui dit « l'homme que j'aime ». Alors dans « the man I love », il semble manquer le « que ». Le relatif n'est pas exprimé. Mais la vérité, c'est qu'au lieu de l'être par un mot, c'est par un blanc entre les mots qu'il passe dans le langage. Il n'est même pas sous-entendu, parce que si je dis que dans « the man I love », il est un peu sous-entendu qu'on dit « the man that I love », eh bien, ça suppose que je prends mon langage, la langue française, pour référence absolue. Si le français nous semble calqué sur les choses, c'est pas parce qu'il l'est, c'est parce qu'il nous donne l'illusion par ses rapports internes de signe à signe. Or, 9. Dire, ce n'est pas mettre un mot sous chaque pensée. Si nous le faisions, rien ne serait jamais dit, et nous n'aurions pas le sentiment de vivre dans le langage, et nous resterions dans le silence, parce que le signe s'effacerait aussitôt devant un sens qui serait le sien, et que la pensée ne rencontrerait que des pensées, celles qu'elle veut exprimer et celles qu'elle formerait d'un langage tout explicite. Il y a un pouvoir des mots parce que, travaillant les uns contre les autres, ils sont hantés à distance par la pensée, comme les marées par la lune. Le langage signifie quand, au lieu de copier la pensée, il se laisse défaire et refaire par elle. Dame Ned, que c'est beau. Merleau-Ponty, du coup, va en profiter pour parler du travail de l'écrivain lui aussi. Mais, non pas pour dire que seul l'écrivain est capable de détourner le langage pour nous faire saisir la réalité du monde, mais pour nous montrer simplement comment le langage apparaît dans sa nature, plus spécifiquement, à travers le travail de l'écrivain. Donc l'écrivain nous semble s'installer, nous dit Merleau-Ponty, dans des signes déjà élaborés, dans un monde déjà parlant. Il utilise des éléments de langage, il les juxtapose, c'est ce qu'il nous semble, et il fait un livre. Vous savez, toujours ce truc-là des singes qu'on mettrait à l'infini, tapant sur des machines à écrire, au bout d'un moment qui vous créerait un volume qui est plein de sens, ou même une infinité de volumes. De toute façon, l'infini, on peut toujours jouer avec ça, parce que ça ne s'arrête jamais. L'idée, ce serait que, voilà, un livre, c'est une collection de mots qui sont mis dans un certain ordre, et que le talent de l'écrivain, ce serait juste de mettre les mots dans le bon ordre. Mais, nous dit Merleau-Ponty, le langage exprime autant par ce qui est entre les mots que par les mots eux-mêmes. Il exprime autant par ce qu'il dit que par ce qu'il ne dit pas. Et donc, on pourrait ainsi, et c'est ce que fait Merleau-Ponty, comparer le langage au travail du peintre. Donc, faisons un tout petit détour par le travail du peintre et rejoignons notre propos. Citation 10. L'acte de peindre est à deux faces. Il y a la tache ou le trait de couleur que l'on met en un point de la toile et il y a leur effet dans l'ensemble. Sans commune mesure avec eux, puisqu'ils ne sont presque rien et suffisent à changer un portrait ou un paysage. Celui qui observerait le peintre de trop près, le nez sur le pinceau, ne verrait que l'envers de son travail. L'envers, c'est un faible mouvement du pinceau ou de la plume de poussin. L'endroit, c'est la percée de soleil qu'il déclenche. Une caméra a enregistré au ralenti le travail de Matisse. L'impression était prodigieuse, au point que Matisse lui-même en fut ému, dit-on. Ce même pinceau qui, vu à l'œil nu, sautait d'un acte à l'autre, on le voyait méditer, dans un temps dilaté et solennel, dans une imminence de commencement du monde, tenter 10 mouvements possibles, danser sur la toile, la frôler plusieurs fois, et s'abattre enfin, comme l'éclair, sur le seul tracé nécessaire. Il y a, bien entendu, quelque chose d'artificiel dans cette analyse. Et Matisse se trompait s'il a cru, sur la foi du film, qu'il eût vraiment opté ce jour-là entre tous les tracés possibles et résolu, comme le dieu de Leibniz, un immense problème de minimum et de maximum. Il n'était pas démiurge, il était homme. Il n'a pas tenu, sous le regard de l'esprit, tous les gestes possibles et pas eu besoin de les éliminer tous sauf un, en rendant raison de son choix. C'est le ralenti qui énumère les possibles. Donc Matisse, au ralenti, est fasciné, il a l'impression que son seul geste qui était nécessaire passait par des hésitations parmi des gestes possibles, mais non, l'acte est un. Et il en va de même de la parole, vraiment expressive. C'est la parole vraiment expressive, c'est celle qui n'hésite pas. C'est pas celle qui va choisir entre différents mots pour les mettre dans le bon ordre et dire la seule phrase qui s'impose. Comme disait Jean Paulhan. Il n'y a pas une phrase qui s'impose et des choix plus ou moins bons. Il n'y a pas une variété de possibles. Bon, c'est bon, vous avez compris. Donc la parole ne choisit pas seulement un signe pour une signification déjà définie. Comme dit Merleau-Ponty, on va chercher un marteau pour enfoncer un clou ou une tenaille pour l'arracher. La parole tâtonne autour d'une intention de signifier, qui ne se guide pas sur un texte, puisque celui-ci est justement en train de s'écrire. Le sens des expressions en train de s'accomplir, c'est, nous dit Merleau-Ponty, guillemets, un sens latéral ou oblique qui fuse entre les mots. Le langage ne consiste donc pas en une combinaison particulière de mots, permettant plus ou moins fidèlement de traduire une pensée. Il n'y a pas de pensée sans mots, mais la parole donne à la signification un certain style. Merleau-Ponty nous le montre en analysant le travail d'écriture. C'est un des résultats du langage, ça c'est une des plus belles idées je trouve, c'est un des résultats du langage de se faire oublier dans la mesure même où il parvient à exprimer. À mesure que je suis captivé par un livre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne vois plus les lettres sur la page. Je ne sais plus quand j'ai tourné les feuilles. Je suis captivé. Le moment où vous n'êtes pas captivé par le livre, c'est le moment où vous dites « Oh, j'ai déjà lu tout ça » et que vous commencez à regarder combien de pages il vous reste vers la fin du chapitre. On a tous fait. « Oh, j'ai bien lu !» Comme ça, je suis bien content, mon marque-page est bien au milieu, les gens verront que je lis, paf, je laisse bien traîner sur ma... Non, ça, c'est le mauvais langage. Le pire, bien sûr, ça, c'est celui, quand vous êtes vraiment pas très bon lecteur, dénoncé par Danny Boone, où vous lisez le numéro de la page. Bon, c'était juste une blague. Bon, citation beaucoup plus sérieuse, 11. « Un grand livre, une grande pièce, un poème, est dans mon souvenir comme un bloc. Je puis bien, en revivant la lecture ou la représentation, me rappeler tel moment, tel mot, telle circonstance, tel tournant de l'action. Mais en le faisant, je monnaie un souvenir qui est unique et qui n'a pas besoin de ses détails pour demeurer dans mon évidence aussi singulier et inépuisable qu'une chose vue. Cette conversation qui m'a frappé, je n'aurais pas à rassembler des souvenirs distincts l'un de l'autre, je la tiens encore en main comme une chose. Le regard de ma mémoire l'enveloppe. Il me suffira de me réinstaller dans l'événement pour que tout, les gestes de l'interlocuteur, ses sourires, ses hésitations, ses paroles, reparaissent à leur juste place. C'est ça, une vraie conversation. C'est le moment où vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah oui, il a dit ça, et puis moi je lui ai dit ça. Tiens, paf, bien envoyé. Oui, mais lui, il m'a répondu ça. Oui, mais moi, je lui ai re-répondu ça. » Non. Dans une vraie conversation, vous êtes avec votre interlocuteur dans un seul tissu, nous dit Merleau-Ponty. C'est-à-dire, vous rebondissez sur ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, c'est un petit peu de ce que vous auriez dit. Et réciproquement, ce que vous dites apporte, alimente, contribue à cette espèce de tissu que vous construisez à deux. C'est pas chacun les points et chacun donne une tirade. Ça peut arriver. Mais dans le vrai dialogue, c'est le moment où on est dans une sorte de fusion, une effervescence. Ah oui, mais c'est comme... Puis bien sûr, ce que tu me dis, c'est le contraire de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire, c'est pas le moment où j'attends que l'autre ait fini pour pouvoir en placer une. Bien. Donc, c'est bien en cela que réside la vertu du langage. Il nous jette à ce qu'il signifie, il s'efface pour nous donner accès, par-delà les mots, au sens même que l'auteur visait. De telle sorte qu'après coup, on a l'impression qu'on s'est entretenu avec lui, d'homme à homme, sans parole, d'esprit à esprit. L'impression d'avoir discuté avec Flaubert, d'avoir partagé un grand moment intime avec Proust. C'est qu'il y a au fond deux langages. Il y a le langage après coup, celui qui est acquis et qui s'efface devant le sens qu'il a contribué à faire naître. Et il y a celui qui se fait au moment même de l'expression, qui me fait glisser des signes vers le sens. En gros, il y a le langage parlé et le langage parlant. Le langage parlé, c'est celui qui est déjà utilisé. C'est le moment où l'idée patine. Le langage parlant, c'est quand elle fait naître quelque chose en vous qui fait que vous étouffez un bâillement plutôt que de le produire. Bien. Citation numéro 12. Ainsi, je me mets à lire paresseusement, je n'apporte qu'un peu de pensée. Et soudain, quelques mots m'éveillent. Le feu prend, mes pensées flambent, il n'est plus rien dans le livre qui me laisse indifférent. Le feu se nourrit de tout ce que la lecture y jette. Pardon d'avoir défiguré cette citation. Le feu se nourrit. Il y a quelque chose qui flambe d'un seul coup. C'est inexplicable. Au début, vous lisez ce truc, puis finalement, ça vous ennuie. Et puis d'un seul coup, il y a un déclic, et paf, vous ne pouvez plus vous arrêter. Les premiers mots, ça vous embêtait, vous forciez un peu. On vous avait dit, mais force-toi, tu verras après, c'est génial. Parfois, ça vient, parfois, ça vient pas. Parfois, à la fin du livre, c'est toujours pas venu. Mais quand le feu flambe, là en revanche, ça dévore. Et c'est inexplicable. Et le livre, justement, le bon livre, c'est celui qui ne m'intéresse pas tant parce qu'il parlait de ce que je sais, que celui qui me conduit au-delà. Il y a un moment où il m'ennuie, le livre, quand il parle déjà de ce que je connais. Donc c'est le contraire de ce que disait Bergson. Le livre m'ennuie quand il me parle de moi. En revanche, quand il fait résonner en moi quelque chose qui m'entraîne au-delà, là, je m'installe dans cet univers. Et c'est, ou plutôt, c'est lui qui s'installe dans mon monde et qui détourne les signes de leur sens ordinaire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous imitez quelqu'un, pour donner une comparaison, quand on imite quelqu'un, on imite toujours aussi son style. On ne peut pas juste imiter sa voix, impossible. Quand vous imitez Chirac, il faut toujours faire le truc en même temps et les mouvements qui sont un peu... Moi, je ne sais pas imiter Chirac, vous attendiez sûrement ça, j'en suis désolé quand je commence à dire « je ne sais rien imiter, je suis nul pour ça ». Mais bon, on voit bien les gens... Les imitateurs, quand ils imitent, c'est pas juste pour faire bien le reste. C'est que vous ne comprenez vraiment le style d'une imitation que quand vous saisissez la totalité dans laquelle il s'inscrit. Le style de l'écrivain, c'est la même chose. Le style d'une conversation, c'est la même chose. Quelqu'un peut dire des choses très intéressantes, s'il ne le dit pas avec le bon ton, il vous barbe. Quelqu'un peut dire des choses épouvantablement ennuyeuses pour le commun des mortels, sauf qu'il le dit bien et qu'on l'écoute quand même. Bon, et on peut aussi combiner les deux. Bien. Donc, c'est la voix de l'auteur qui finit par induire en moi sa pensée. Le langage parlant, c'est ça. C'est l'interpellation que le livre adresse au lecteur qui n'était pas prévenu, qui ne pensait pas qu'il allait trouver du plaisir. Dans mes classes, à des terminales, des fois, ils se disent « Ah non, ça va être barbant, c'est un texte de philo. » Et puis d'un coup, le feu prend. Et certains, bon, bah tous quand même, mais certains, d'un seul coup, trouvent ça formidable. Et c'était inattendu. Donc, c'est le moment où des significations disponibles se transfigurent et font apparaître une signification totalement nouvelle. Du neuf avec du vieux. C'est aussi la parole que j'adresse d'une manière unique parce qu'elle témoigne de mon être tout entier. Une fois acquis ce langage, je peux avoir l'illusion de l'avoir compris par moi-même, mais c'est le langage qui m'aura transformé et qui a rendu capable de le comprendre. Pourquoi au début on déteste Proust ? Parce qu'on trouve les phrases trop longues. Pourquoi après on l'adore ? Parce qu'on s'est laissé habiter par le langage de Proust. Bon, parfois on l'aime toujours pas après, mais ça c'est encore un autre problème. Mais enfin, en général, on l'aime quand on se force, au début. Et on se force au début. C'est rare. Bon, on adore la première phrase, elle est courte. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Bon, ça va. Vous n'avez pas lu Proust si vous avez lu la première phrase. Et puis après, c'est tout un univers, c'est toute une façon, c'est tout un style qui vous pénètre. Et puis d'un seul coup, vous aimez Proust. Vous ne savez pas si c'est à la page 365 ou 1028 que vous avez aimé Proust, mais il y a un moment où vous aimez Proust. Bien. À l'inverse, le langage parlé, c'est celui qui vise à produire une action ou simplement veut rendre compte d'un état. Je suis fatigué. Ça, c'est ce que je dis tous les jours pour essayer de me faire plaindre à ma femme. Et bien sûr, c'est une pensée totalement inhabitée. Je suis fatigué, à force de le dire tous les jours, c'est juste fatigant. On ne ressent aucune émotion. Puis c'est presque un tic. Et on pourrait dire que le langage parlé, c'est une pensée sans parole. C'est une pensée désincarnée. Bonjour, ça va ? Ça va. Ce serait horrible que quelqu'un, quand on dit bonjour, ça va, nous raconte sa vie. Vous savez que c'est toujours piégeux. Salut, ça va ? Oui, non, tu sais, en ce moment, mais je m'en fous. C'était une politesse. Ça, c'est le langage parlé. On attend un « ça va ». Bien. Au fond, une pensée désincarnée, le langage parlé, c'est une pensée qui ne donne plus à penser. Donc, c'est aussi le cours énoncé sans conviction, qui ne fait plus naître aucune réflexion auprès des élèves. Le cours qui a marché il y a 10 ans, et que j'ai ressorti 10 ans après. Ça marchait bien à l'époque, je ne comprends pas. Maintenant, les élèves, ça les plombe. Mais parce qu'il manque quelque chose, il manque la flamme qui marchait il y a 10 ans et qui n'y a plus aujourd'hui. Donc les mots sont usés, les syllabes s'enchaînent mécaniquement. Et il en va ainsi de toute idée trop souvent répétée. Elle n'est plus qu'un vestige ou un signal usé, le rappel sans fraîcheur, sans la fraîcheur de ce qui nous avait d'abord séduit. Donc la pensée trop répétée, c'est une sorte d'incantation qui n'a plus aucune présence. À l'inverse, lorsque le langage fonctionne vraiment, ce n'est pas une simple invitation à découvrir ce que le lecteur ou l'auditeur savait déjà, c'est cette ruse par laquelle l'écrivain ou l'orateur nous fait apparaître de nouvelles façons de rendre le sens. On se rallie à son système d'harmonie, on raisonne avec lui. Et on le prend pour nôtre. Donc le langage parlant, c'est plutôt un appel à la pensée. Donc, quelques mots pour conclure. Le mot, et plus généralement le langage, n'est ni l'équivalent strict de la pensée, qui ne servirait qu'à exprimer fidèlement, égal, ni une trahison vis-à-vis de la pensée qu'il déformerait toujours ou dont il perdrait la richesse en la généralisant pour la rendre communicable, Bergson. Le mot, et plus généralement le langage, n'est pas un empêchement pour la conscience, au contraire, à l'état naissant ou à l'état vivant, dirions-nous, il est un geste de reprise, de récupération, qui me réunit à moi-même comme à autrui. Quand je parle à quelqu'un, je ne me représente pas des mouvements à faire. C'est tout mon corps qui se rassemble pour rejoindre et dire le mot. D'ailleurs, souvent, je prends la pause. Mais parce que ça m'aide. Là, d'un coup, c'est très difficile de rester absolument stoïque et de s'adresser à quelqu'un. Il faut toujours accompagner de gestes. Le style, c'est tout entier. C'est tout son être qui est avec tout cela. Donc, ce n'est pas même le mot que je vise, ni la phrase, c'est la personne. C'est pour ça que je m'adresse à des gens différemment. À chacun différemment. Quand j'écoute, je n'ai pas la simple perception auditive des sons, mais le discours se parle en moi. Merleau-Ponty dit « Il m'interpelle et je retentis. » Un discours habité m'enveloppe à tel point que je ne sais plus qui, enfin ce qui est de moi et ce qui est de mon interlocuteur. Dans ces deux cas, je me projette en autrui, je l'introduis en moi et notre conversation nous rassemble. Et cette transcendance de la parole, qu'on a rencontrée dans l'usage littéraire et qui est déjà présente dans le langage commun, dès que je ne me contente pas justement du langage tout fait, et d'ailleurs on pourrait même dire que le langage tout fait, c'est finalement une manière de se taire, mais lorsque je m'adresse vraiment à quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, ma parole devient vivante, mon langage devient parlant, et c'est alors qu'il nous donne à penser. Lorsqu'il suscite l'étonnement, la réflexion, l'envie de répondre, lorsqu'il est ouvert à l'interprétation et qu'il s'en enrichit. Peut-on penser sans mots ? Non. Mais on ne pense pas en assemblant les mots, en variant les combinaisons, on pense à travers les mots, dans cet acte de reprise continuelle qu'est la parole, et qui me révèle aussi bien à autrui qu'à moi-même.